On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relations à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation. L'histoire, en fait, qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité. Ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'entreprise du futur et l'ANDRH Rhône et Ain, matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises, matinée qu'on vous propose de revivre maintenant. Jusque-là, on a beaucoup parlé attractivité, séduction. On va parler maintenant fidélisation et plus encore peut-être engagement. Et pour parler d'engagement, on va parler de management parce que on peut en effet être séduit par une entreprise, mais le quotidien, si je puis dire, c'est bien avec son ou sa manager qu'on va le vivre. Son rôle est donc essentiel dans l'engagement des collaborateurs. C'est de cela dont on va parler avec Éric Albert, psychiatre et fondateur du cabinet YouSide, un cabinet de conseil qui accompagne les dirigeants notamment sur cette question de l'engagement.
Nous sommes tous des individus et l'engagement, il vient d'abord avant tout de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, donc de chacun d'entre nous, de notre envie, de notre désir. Sauf que notre envie et notre désir, ils ont des échos, ils ne l'ont pas. Il n'y a pas un bruit bizarre là ?
Il y a un écho justement.
C'est ça. Donc évidemment, l'environnement dans lequel on va se trouver va être absolument central. Et je pense que chacun d'entre nous, dans nos sociétés, dans nos entreprises, le sujet qu'on a est de se dire, dans le fond, une entreprise, moi j'aime bien comparer l'entreprise à un individu. Et un individu, chacun d'entre nous, dans nos vies quotidiennes, on a une dimension qui est une dimension inspirationnelle, qui est de se dire qu'est-ce que je fais de ma vie ? Alors, je peux décider que ma vie, c'est ma famille, que ma vie, c'est mon travail, que ma vie, c'est la mélange de certain nombre de choses, que ma vie, c'est de l'ouverture. Donc, cette dimension qui m'inspire, qui me porte, qui me donne du sens. On a ensuite une dimension qui est opérationnelle, qui est la vie quotidienne, qui est ce que je vis au quotidien. Et là, notre sujet qu'on a tous, c'est comment est-ce que, dans notre vie quotidienne, on a une espèce de cohérence entre ce que j'ai à faire, les moyens que j'ai, la façon dont je peux m'organiser, et que je ne suis pas tout le temps dans des tiraillements liés à de l'incohérence entre ce qu'on me demande et ce qui se réalise. Et puis on a une troisième dimension qui est absolument fondamentale, qui est la dimension émotionnelle, qui est le ressenti que nous avons au quotidien de ce qu'on vit. À la fin de votre journée, vous endormez avec la banane ou vous endormez avec un sentiment que votre vie est horrible. Vous voyez bien que cette dimension émotionnelle est fondamentale. Et bien l'entreprise est exactement comme ça. Dans une entreprise, tous vos collaborateurs, ils ont besoin d'inspirationnel. Ils ont besoin d'énormément de cohérence dans la vie quotidienne, de leur opérationnalité quotidienne. Et ils ont besoin d'un environnement émotionnel, qui est un environnement émotionnel positif. Est-ce que vous avez suffisamment réfléchi à la façon dont vous créez l'environnement émotionnel de votre entreprise ?
Et ça c'est le rôle du manager notamment ?
Alors ça, là on est au cœur de ce qu'a à faire le manager. Parce que vous voyez bien qu'à la fin de ma journée, mon ressenti il dépend énormément de l'ambiance qui a été créée. Ça va se jouer énormément sur cette notion de jeu relationnel, très très important, mais aussi de la façon dont on gère ensemble les irritants, mais aussi de la façon dont je retrouve du souffle dans ce que j'ai à faire. Donc vous voyez, cette dimension émotionnelle est absolument centrale.
Je trouve que vous touchez du doigt aussi quelque chose qui est fondamental, qui est que cette réflexion managériale, évidemment, elle bouge avec ce qu'on vient de traverser à cause d'un paradoxe que vous expliquez très bien, qui est que, notamment les jeunes générations, mais pas seulement, mais notamment les jeunes générations, pour s'engager avec une entreprise, ont besoin de flexibilité, notamment de télétravail, elles le réclament, mais que ce télétravail, paradoxalement, il peut être générateur de désengagement. Comment est-ce qu'on gère ce paradoxe-là ?
Oui, les jeunes qui viennent vous voir, ils vous disent avant tout, hein, ce qu'ils vous disent, c'est « je veux bien venir chez vous, mais je ne m'engage pas ». C'est quand même ça le grand truc. Donc laissez-moi travailler chez moi. Si je peux avoir de temps en temps une semaine de télétravail pour aller faire un peu de surf au Portugal, parce que pour moi le surf c'est super important. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est que il vous demande explicitement qu'il n'y ait pas trop d'engagement de leur part. Et évidemment, je veux rester à distance. Et tout l'enjeu que vous avez, c'est que plus ils sont à distance, évidemment, moins ils seront engagés. On voit bien qu'il y a des choses absolument dingues qui se sont passées à la suite de la crise Covid, hein, des accords qui ont été passés de 3-4 jours de télétravail et dans lesquels, du coup, les gens viennent les jours qui les arrangent, ne voient jamais leurs collègues, dans un système dans lequel il n'y a plus aucune dynamique collective, et dans lequel, évidemment, la présence ne fait de moins en moins de sens. Et donc, il y a un effet qui fait que, bah, quand je viens, si c'est pour faire du Teams toute la journée, alors que je me suis tapé les transports et que je suis dans un truc ouvert et où je suis gêné par les autres, franchement, c'est triple punition, donc je viens plus, quoi.
Donc l'enjeu pour le manager, c'est de donner du sens au retour au travail, au moment en présentiel.
Vous voyez bien que là, il y a un nouveau job complètement nouveau du manager qui est de donner envie.
Donner envie de revenir sur...
Ah ben oui, le manager, il n'est pas là seulement pour gérer, il faut qu'il donne envie. Il est géo du Club Med, hein, le manager, maintenant.
C'est-à-dire donc, que quand je viens, il faut que je me dise, j'ai bien fait de venir, sinon j'aurais raté un truc. Quoi.
Exactement, si c'est pas passé un truc, si je me suis tapé du Teams toute la journée, si on n'a pas appuyé sur les ressorts qui fait que... Parce que, ne trompons pas, hein, travailler à distance, c'est... extrêmement confortable, mais c'est dépressogène. Venir, c'est inconfortable, mais ça donne du plaisir. Alors, il faut choisir entre l'inconfort et le plaisir, et le confort et la dépression. Mais il faut être très clair. Vous voyez bien la mécanique dans laquelle on se met. Donc, encore faut-il que, quand on vient, vous êtes là, vous n'êtes pas en Teams. Et pourquoi vous êtes là ? Vous êtes là parce que, au-delà de ce que je raconte les uns et les autres, nous on fait épître, mais ça vous pourriez le suivre en Teams, mais au-delà de ça, vous voyez bien que ce qui est important, c'est que vous allez croiser des gens et que vous ne savez pas qui vous allez croiser.
L'aléatoire.
C'est merveilleux. Vous allez croiser des gens que vous n'avez pas prévu de croiser. Votre journée va être beaucoup plus intéressante. Évidemment, vous avez fait l'effort de venir jusque cet endroit qui est quand même un peu... Faut y arriver quand même. Hein. Mais moyennant quoi, quel plaisir ! Quel plaisir ! Donc, c'est ce qui se joue, vous voyez, cet aléatoire... cette convivialité, ces échanges, le fait, la relation. À la fin des fins, le cœur du cœur, c'est la relation. Et vous voyez, au travail, une des raisons pour lesquelles il faut absolument se battre pour que les gens reviennent, c'est que moi, je travaille sur le stress depuis 30 ans. Et le sujet majeur du stress au travail, la régulation majeure du stress au travail, c'est ce qu'on appelle le soutien social. Et le soutien social, c'est quoi ? C'est, je suis devant ma machine, je viens de recevoir un mail d'un client ou d'un manager ou de je ne sais qui, ou de quelqu'un dans la boîte qui m'insulte. J'ai un choc émotionnel. Et là, il se trouve que j'ai un collègue juste à côté. Et qui voit la tête que je fais. Et qui me dit, ah bah tiens, on va aller prendre un café. Vous voyez, on va fumer une cigarette ou je sais pas quoi. Ça, c'est le soutien social. C'est un truc fondamental. Quand je suis tout seul chez moi face à mon Teams, personne ne voit ma tronche. Hein. Parce que évidemment, j'ai coupé la caméra parce que je fais autre chose.
Bah, vous lisez le mail d'insultes que vous avez reçu.
Voilà, j'ai eu l'insulte, j'en profite pour éplucher mes carottes. Enfin bon, j'ai quand même d'autres activités plus importantes. Et ce qui nous pose un autre sujet majeur qui est le sujet de l'attention. Et alors, on a vu récemment, il y a des études qui montrent qu'il y a aussi d'énormes sujets d'idéation. Vous perdez toute votre créativité devant l'écran. Hein. Donc, vous n'avez plus d'idéation.
Sans compter qu'il n'y a pas l'intelligence collective qui peut véritablement se jouer ailleurs que...
Tout ce qui est intelligence émotionnelle, absolument fondamentale. Donc, si on revient à notre sujet, je m'excuse, je dérive. Mais,
au job du manager, du coup.
Voilà.
Au géo.
Si on revient au job du manager, et au fait, première chose, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens. Il y a un malentendu. Le malentendu, c'est le suivant. C'est que on a eu les confinements... J'ai bossé de chez moi, et ça a marché. Et d'ailleurs, tu m'as dit que j'avais été vachement bon. Donc, on va continuer comme ça. Et là, pourquoi c'est un malentendu ? Parce que ce qu'on a vécu dans une période de crise ne reflète en rien ce qu'on attend de quelqu'un. Ce qu'on attend de quelqu'un, c'est ça va bien au-delà de sa production personnelle. C'est le soutien que j'apporte aux autres, c'est la disponibilité que j'ai pour les aider, c'est le développement d'un certain nombre de gens, c'est la participation à une communauté, c'est cet engagement collectif, c'est l'intelligence collective, c'est tout ça. C'est pas dans votre fiche de poste, hein. Ça s'est jamais écrit nulle part, ça. Sauf que c'est au cœur et c'est indispensable. Donc le sujet majeur est dans le désir. Est-ce que vous créez assez de désir ? Mais ce qui était, c'est ça qui est très intéressant à comprendre, c'est que le désir, il faut que les gens aient envie d'avoir envie. Donc c'est cette fameuse motivation intrinsèque, comment est-ce qu'on donne aux gens d'avoir envie ? Et une fois qu'ils ont envie d'avoir envie, il faut que quand ils viennent, il y a quelque chose qui réponde à leur désir. Et que la présence... ça ne soit pas juste la même chose que ce que je fais à la maison, en pire.
Donc on événementialise quelque part les moments de présence.
Donc d'abord, on remet du sens dans tout ça, on crée du lien, on structure l'aléatoire. Vachement important qu'il se passe des choses dans ma journée que je n'ai pas prévues. C'est essentiel. On travaille beaucoup plus l'intelligence collective et... ça s'éduque l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va former les gens à contribuer à l'intelligence collective. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça.
Ça s'apprend.
Ah bien sûr, parce que ça suppose beaucoup de choses à l'intelligence collective. Ça suppose beaucoup de respect des individus, ça suppose beaucoup de diversité, ça suppose beaucoup de capacité à laisser les gens s'exprimer, ça suppose une vraie empathie, et puis ça suppose derrière d'en faire quelque chose, d'en tirer un wrap-up, d'en tirer quelque chose de concret. Donc... tout ça, ça se construit dans des nouvelles modalités managériales, mais qui sont radicalement différentes de ce qu'on a connu. Vous voyez bien qu'un manager, surtout les managers de proximité, est très formé à encadrer, surveiller, reporting, imposer. Ça, c'est sûr que ce modèle-là, si c'est ça que vous promettez aux jeunes, ils ne vont pas avoir envie. Hein. Si c'est pour faire ça, je préfère faire ça du Portugal, et tout de suite après, aller me faire un peu de surf. Donc, la vraie question que vous avez, hein, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils auront envie d'être là et pas au Portugal ? Qui est une question. Vous voyez, avant, c'était un cadeau, hein, tout le monde venait au boulot, il n'y avait pas de question. Hein. On ne se rendait absolument pas compte que c'était. Et donc, c'était une évidence. C'est fini. Ça n'est plus une évidence. Et donc. Il faut qu'il manque quelque chose. Vous savez, les GAFA vous disent, on a fait des lieux de travail tellement... Alors, les GAFA, ils se sont plantés comme tout le monde, hein, parce que dans un premier temps, ils ont fait tout à distance. Mais nous on est nouvelle économie, donc on fait tout à distance, tout va aller bien. Ils ont laissé leur bureau fermé un an et demi, deux ans. Et maintenant, c'est exactement le contraire. Tout le monde revient au bureau. Mais tout le monde revient au bureau dans un système dans lequel on a des bureaux en centre-ville, super agréable, et avec le modèle selon lequel le bureau c'est tellement agréable que le week-end ça doit vous manquer.
Et c'est ça qui va faire que peut-être on va passer de juste la fidélisation à l'engagement. C'est pas la même chose en fait. Hein. C'est quoi le plus important ?
Alors c'est beaucoup plus important l'engagement que la fidélisation.
Et comment est-ce qu'on...
Et notamment, il y a une étude récente, vachement intéressante, que j'ai retweetée là récemment, qui montre que plus vous êtes, vous développez l'employabilité de vos collaborateurs, on pourrait dire qu'ils développent leur employabilité, donc ils vont se tirer. Eh bien non, plus ils restent. Donc, vous voyez bien
leur
que...
Leur permettre de partir leur... pour les faire rester.
Exactement. Plus vous leur dites... Mais voilà l'intérêt qu'elle tient. Puis vous rentrez dans leur intérêt, qui est quasiment toujours la nouvelle génération de se développer et d'être dans un environnement épanouissant. Plus vous développez cet intérêt, plus vous êtes, vous allez les garder dans un système où ils sont engagés. Mais vouloir les... Vous voyez, le piège absolu, c'est le modèle dans lequel... Vous essayez de les retenir par le fric, avec des plans de rétention que tu touches que dans 3 ans si tu es toujours là, ou les modèles à l'ancienne des grandes entreprises à la EDF où le contrat social est tellement avantageux que quitter EDF c'est vraiment être fou quoi. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je vous rappelle que plus vous payez quelqu'un, moins il est motivé. Donc, dans vos négociations salariales, maintenant vous savez quoi dire.
Vous avez bien fait de venir, ne serait-ce que pour ça.
Non mais c'est encore une fois, c'est motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Motivation intrinsèque, je vous rappelle, c'est... Je fais quelque chose parce que j'en ai envie et que je l'ai choisi. Motivation extrinsèque, je fais quelque chose pour la récompense ou pour éviter la punition. Plus vous êtes en motivation extrinsèque, plus il faut monter les salaires, plus il faut mettre des contraintes, plus vous, et menacer les acteurs. Et plus l'engagement baisse. Donc vous voyez bien que vous avez un sujet qui est d'inverser la dynamique pour vous mettre en motivation intrinsèque.
Je vous interromps un instant parce qu'il y a aussi probablement un élément qui peut être moteur d'engagement, c'est la reconnaissance ou pour parler plus simplement les fameux feedbacks. Et je voudrais juste demander à Christophe Roure de nous rejoindre quelques minutes parce que, je pense, restez avec moi,
oui,
je pense que ça va vous intéresser. Christophe Roure, c'est le fondateur d'ImageMe. Et ImageMe, en fait, c'est une solution très innovante de feedback qui permet, vous m'arrêtez si je me trompe, mais à chaque collaborateur, et vous allez nous raconter comment ça fonctionne, d'avoir un feedback 360 à la fois de sa hiérarchie, bien sûr, mais de ses pairs, de ses collègues et de ses partenaires même externes. Et c'est ça qui est formidable, c'est que peut-être pour la première fois, il va avoir des retours de ses clients, par exemple.
Alors exactement, bonjour à tous. Donc ImageMe, c'est une solution effectivement digitale de feedback sur les compétences, sur les savoir-être, sur les soft skills, voilà, sur les talents et sur la personne.
Et que sur ça d'ailleurs, sur les soft skills.
Alors on est
essentiellement
sur le grand savoir-être. Alors on a souvent la distinction savoir-faire, savoir-être. Nous on a un focus plus important sur cette dimension comportementale, relationnelle, humaine. Et notre raison d'être, c'est de fournir un dispositif au service de l'humain, hein, du candidat, du collaborateur, pour apprendre à mieux se connaître. Au service de développer, au service de grandir. Et effectivement, alors on va l'utiliser dans différents contextes, des contextes de recrutement, des contextes d'onboarding. On parle de fidélisation, d'engagement collaborateur. Ça commence dès l'intégration, hein, donc tous ces enjeux d'aller capter le décalage qu'il peut y avoir entre la promesse et la réalité dans un poste. Hein, donc on va beaucoup travailler sur aller solliciter et capter les feedbacks pour identifier les possibles signaux faibles qu'il peut y avoir entre la compréhension de la promesse du job et des compétences du collaborateur et puis la réalité du quotidien.
Et donc concrètement, d'abord, c'est le collaborateur qui s'auto-évalue dans un premier temps.
Alors, tout à fait. Nous, en fait, l'idée, c'est qu'on met le collaborateur au cœur du dispositif.
Donc, il a quoi ? Il a une appli sur son...
Il a une app.
Ouais.
Donc, il a une app. Il a un profil qui lui appartient. Donc, la donnée lui appartient. On est vraiment dans la notion de confiance. Bon, on est RGPD, bien évidemment. Mais... Et l'idée, c'est que le collaborateur, il puisse s'auto-évaluer dans un premier temps. Donc, on a développé un référentiel cognitif sur différentes dimensions, des dimensions de valeur, des dimensions de motivation. Vous en parlez très bien. On a travaillé aussi avec notre, on a un comité scientifique, on a défini aussi une notion d'auto-motivation, hein, parce que la motivation aujourd'hui on voit les clés, hein. Comprendre pourquoi le candidat vient, pourquoi le candidat y reste. On parlait tout à l'heure d'entretien, là, j'ai bien aimé la notion d'entretien pour identifier pourquoi
le maintien en poste. Maintien
pourquoi
en poste. Il reste,
oui. Donc nous on est beaucoup sur ces sujets-là. Et puis alors merci parce que ce que vous avez évoqué je partage à 100%. On va beaucoup travailler sur le développement des compétences, développement de l'employabilité. Du collab en interne au service de la fidélisation. Voilà, parce que finalement, c'est en faisant grandir le collaborateur qu'on le fait aussi, soit il va se développer en interne, soit il va être, on sait que la transformation des métiers va être importante, donc il faut accompagner cette transformation.
Donc il s'auto-évalue, ça lui prend 5-15 minutes, exactement. Et puis il va aller confronter ça à ce que pense de lui son écosystème. Et concrètement, il fait comment ? Il envoie un lien ?
Oui, sur notre appli, en fait, il s'auto-évalue sur la base de ce référentiel. Et puis, on va l'inviter à solliciter des feedbacks, des retours. On a un concept qu'on a déposé qui s'appelle le retour d'image. Et il va solliciter les retours d'image sur lui, sur ses compétences, lui intrinsèquement, auprès, dans des logiques 360 qu'on connaît, mais qu'on a digitalisées et qu'on a associées à notre référentiel cognitif, donc auprès de ses N, de ses N-1, de ses collègues, mais aussi auprès de son écosystème externe. Et donc tous les métiers, et Dieu sait qu'il y en a, où on est en interaction avec un interlocuteur externe, que ce soit des clients, des prospects, des fournisseurs, des actionnaires ou autres. L'idée, c'est vraiment d'aller mettre le collaborateur au cœur du dispositif, de manière à le faire grandir et de manière à aller capter des retours sur lui.
Donc il va envoyer une notification à son client en lui disant s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à quelques petites questions concernant, quoi.
Exactement, donc il va solliciter des feedbacks à son client, par exemple. Alors pour la genèse, en fait, je sais pas si une des genèses en fait de la création du projet, c'est que moi j'ai évolué pendant un certain nombre de temps dans le monde du consulting, et effectivement ce très beau métier, un des écueils que j'y voyais, c'est que, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, c'est que souvent on pouvait avoir des retours sur l'entreprise, sur la mission de conseil, sur le cabinet. Fallait-il encore qu'on les demande? Mais finalement, on avait assez peu, voire rarement ou jamais, de retours sur soi, collaborateur. On anime un comité scientifique avec différents experts, et notamment des neurologues, psychologues et autres, et on s'aperçoit que c'est une gaussienne, en fait. C'est-à-dire que vous avez les retours quand ça se passe super bien et quand ça se passe super mal. Mais le ventre mou, qui représente quand même 80% des cas, vous les avez jamais, ces retours. Soit parce que vous ne les demandez pas, soit parce que vous offrez pas le canal de communication. Donc c'était un peu l'idée d'ImageMe, dire offrons, c'est vraiment ce qu'on dit à nos clients. Alors c'est un peu ambitieux, mais c'est de dire, les clients qu'on accompagne, ils offrent un cadeau, en fait, à leurs collaborateurs, de manière à les capter des retours sur lui, sur eux. Et les études qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement la reconnaissance est apparaît comme un levier fondamental d'engagement et de fidélisation de collaborateurs.
Vous confirmez, Eric, j'étais curieuse de savoir ce que vous en pensiez.
Non, mais aucun doute que... Alors, deux choses très importantes. Je partage complètement sur le fait que le feedback est fondamental. Le sujet qu'on a tous, c'est le décalage qu'on a entre l'effet qu'on produit et l'effet qu'on veut produire. Encore faut-il être clair sur l'effet qu'on veut produire. Bon, la plupart des gens, d'ailleurs, ne sont pas clairs sur l'effet qu'ils veulent produire, mais se sont tellement tournés sur eux-mêmes qu'ils sont dans des logiques sur leurs propres émotions et pas vis-à-vis des extérieurs. Donc c'est archi important, effectivement, d'avoir ce retour. Il y a, me semble-t-il, deux limites à ça. C'est le fait que quand on est dans un modèle purement ouvert, je dirais, sur la base du volontariat, même si c'est incitatif, ce qu'on voit bien, c'est la courbe de Gauss, c'est-à-dire que les extrêmes, et notamment ceux dont on a le plus besoin, souvent le font le moins.
Ils n'ont pas très envie, peut-être.
Pour avoir fait des dizaines, voire des centaines de campagnes de 360 dans des grands groupes sur des cadres dirigeants, là, c'est un peu différent, mais on voit bien que ceux qui essayent à tous les coups de passer à travers les mailles du filet, c'est évidemment ceux qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est là où il faut qu'on faut vérifier. Et puis la deuxième chose, c'est que, encore une fois, pour avoir débriefé très très souvent des 360, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Je vois bien que j'ai un décalage, parce que notre tendance naturelle à tous, C'est par exemple de dire, est-ce que, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir dans, mais on pourrait se dire, est-ce que je suis quelqu'un de collaboratif, est-ce que je suis à l'écoute des autres, est-ce que je suis disponible, etc. On me dit, bah non, tu n'es pas disponible. Alors moi, je m'étais mis 4 sur 5 en disponibilité, et puis ils me mettent 2. Comment je réagis? Ma première réaction, c'est de dire, ah ouais, mais je sais pourquoi ils me mettent ça. Puis je sais qui m'a mis ça, et puis etc. Et puis non mais je sais bien, mais machin, il me dit ça parce que. Et là, le vrai travail, un introspectif, qui est de se dire bon, s'ils m'ont dit ça, c'est qu'il y a un problème et que je ne peux résoudre qu'en changeant moi-même. Ben il va pas de soi. Hein. C'est pas évident d'avoir ça.
Mais peut-être pour conclure, du coup, le manager a de nouveau un rôle à jouer dans ce qu'on fait des retours aussi.
Le manager, il a un rôle absolument central puisque à la fin des fins, lui, il doit effectivement inciter énormément, mais surtout bien faire comprendre très très tôt, notamment. Vous voyez, vous êtes tous des gens très brillants, sinon vous ne seriez pas là.
Ils ont réussi à arriver jusqu'ici et on sait que c'est compliqué.
Exactement. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Moi, j'aurais pas réussi à votre place. J'ai été très aidé. Donc, vous êtes tous promis à des parcours magnifiques. Ce qui vous limitera, c'est pas votre intelligence, c'est pas votre énergie, c'est pas votre motivation. Vous l'avez. Ça sera toujours vos comportements. Et pour avoir accompagné énormément de dirigeants de très grandes boîtes et les voir choisir qui vont faire rentrer dans le COMEX, qui choisissent, c'est toujours pour des raisons comportementales. Celui-là, il n'a pas de leadership, celui-là, il ne collabore pas, celui-là, il n'est pas fiable, celui-là, il s'engueule avec tout le monde, celui-là, il est rigide, celui-là. C'est toujours pour des raisons comportementales. Donc là, où effectivement... Le sujet feedback, soft skill est absolument central. C'est que, à la fin des fins, quand on arrête de se mettre dans une dynamique qui est une dynamique de progrès comportemental, ça a un nom. Ça s'appelle la vieillesse. Et ça n'est pas une question d'âge. C'est une question juste purement de mentalité.
Merci Eric Albert, merci Christophe Roux, merci à tous les deux.
C'était Eric Albert, psychiatre et fondateur du cabinet YouSide, et Christophe Roux, le fondateur de ImageMe. On se retrouve très vite pour la suite de ce podcast dédié aux grands enjeux RH des entreprises.